There will be two papers tonight. The first one by Tsvetan Todorov from the École Pratique des Hautes Études, which will be followed directly by Roland Barthes' paper, and it's only after the second paper that the discussion will begin. The topic of Mr. Todorov is langage et littérature.
Mon propos se laisse résumer par cette phrase de Valéry, phrase qu'il essaiera à la fois d'expliciter et d'illustrer. La littérature est et ne peut pas être autre chose qu'une sorte d'extension et d'application de certaines propriétés du langage. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer l'existence de ce lien ? Le fait même que l'œuvre littéraire est une œuvre d'art verbal a incité depuis longtemps les chercheurs à parler du grand rôle du langage dans une œuvre littéraire. Une discipline entière, la stylistique, s'est créée aux confins des études littéraires et de la linguistique. De multiples thèses ont été écrites sur la langue de tel ou tel écrivain. Le langage est défini ici comme la matière du poète ou de l'œuvre. Ce rapprochement, trop évident, est loin d'épuiser la multitude des rapports entre langage et littérature. Il ne s'agit pas du langage en tant que matière, dans la phrase de Valéry, mais en tant que modèle. Le langage remplit cette fonction dans beaucoup de cas extérieurs à la littérature. L'homme se constituait à partir du langage. Les philosophes de notre siècle nous l'ont assez répété, et nous en retrouvons le modèle dans toute activité sociale. Ou pour reprendre les paroles de Benveniste, la configuration du langage détermine tous les systèmes sémiotiques. L'art étant un de ces systèmes sémiotiques, nous pouvons être certains d'y découvrir l'empreinte des formes abstraites du langage. La littérature jouit, on le voit, d'un statut particulièrement privilégié au sein des activités sémiotiques. Elle a le langage à la fois comme point de départ et comme point d'arrivée. Celui-ci lui fournit tant sa configuration abstraite que sa matière perceptible. Il est à la fois médiateur et médiatisé. La littérature se révèle partant non seulement comme le premier champ qu'on peut étudier à partir du langage, mais aussi comme le premier dont la connaissance peut jeter une lumière nouvelle sur les propriétés du langage lui-même. Cette position particulière de la littérature détermine notre rapport vis-à-vis de la linguistique. Il est évident que, en traitant du langage, nous n'avons pas le droit d'ignorer le savoir accumulé par cette science, ainsi que d'ailleurs par toute autre investigation sur le langage. Cependant, comme toute science, la linguistique procède souvent par réduction et par simplification de son objet pour pouvoir le manier plus facilement. Elle écarte ou ignore provisoirement certains traits du langage afin d'établir l'homogénéité des autres et laisser transparaître leur logique. Démarche sans doute justifiée dans l'évolution interne de cette science, mais dont ceux qui en extrapolent les résultats et les méthodes doivent se méfier. Les traits délaissés sont peut-être précisément parmi ceux qui ont la plus grande importance dans un autre système sémiotique. L'unité des sciences humaines réside moins dans les méthodes élaborées en linguistique dont on commence à se servir ailleurs que dans cet objet qui leur est commun à toutes et qui est bien le langage. L'image que nous nous en faisons aujourd'hui et qui est dérivée de certaines études des linguistes aura à s'enrichir des enseignements tirés de ces autres sciences. Si l'on adopte cette perspective, il devient évident que toute connaissance de la littérature suivra une voie parallèle à celle de la connaissance du langage. Plus même, ces deux voies tendront à se confondre. Un champ immense s'ouvre à cette investigation. Seule une partie relativement réduite a été explorée jusqu'à maintenant dans des travaux dont le brillant pionnier est Roman Jakobson. Ses études ont porté sur la poésie et se sont efforcées de démontrer l'existence d'une structure formé par la distribution des éléments linguistiques à l'intérieur d'un poème. Je me propose d'indiquer ici À propos, cette fois-ci, de la prose littéraire, quelques points où le rapprochement entre langage et littérature semble particulièrement facile. Il va de soi que, en raison de l'état actuel de nos connaissances en ce domaine, je me limiterai à des remarques de caractère général, sans avoir la moindre prétention d'épuiser le sujet. À vrai dire, les études sur la prose ont déjà essayé une fois d'opérer ce rapprochement et d'en tirer profit. Les formalistes russes, qui ont été des pionniers dans plus d'un domaine, avaient déjà cherché à exploiter cette analogie. Ils la situaient, plus précisément, entre les procédés du style et les procédés d'organisation du récit. Un des premiers articles de Shklovsky était même intitulé « Le lien entre les procédés de composition et les procédés stylistiques généraux ». Cet auteur y remarquait que la construction en palier, un terme qu'il employait pour décrire le récit, se trouvait être dans la même série que les répétitions des sons, la tautologie, le parallélisme tautologique, les répétitions. Le trois coups frappé par Roland sur la pierre était pour lui de la même nature que les répétitions ternaires lexicales dans la poésie folklorique. Je ne veux pas faire ici une étude historique, et je me contenterai de rappeler brièvement quelques autres résultats des études des formalistes en leur donnant la forme qui peut nous servir ici. Dans ses études sur la typologie des récits, Shklovsky était arrivé à distinguer deux grands types de combinaisons entre les histoires. Il y avait d'une part une forme ouverte où on pouvait toujours ajouter de nouvelles péripéties à la fin, par exemple les aventures d'un héros quelconque, tel Rocambole, et d'autre part, une forme fermée qui commençait et se terminait par le même motif, alors qu'à l'intérieur nous étaient contées d'autres histoires, par exemple l'histoire d'Œdipe, au début une prédiction, à la fin sa réalisation, et entre les deux les essais pour l'éviter. Shklovsky ne s'était toutefois pas rendu compte que ces deux formes représentent la projection rigoureuse de deux figures syntaxiques fondamentales servant la combinaison de deux propositions entre elles, la coordination et la subordination. Notons qu'en linguistique, on nomme aujourd'hui cette seconde opération d'un terme emprunté à l'ancienne poétique, l'enchâssement. Dans le passage cité auparavant, il était question de parallélisme. Ce procédé n'est qu'un parmi ceux que Shklovsky a relevé. En analysant Guerre et paix, il décèle par exemple l'antithèse, formé par des couples de personnages. Je cite Napoléon et Kutuzov, Pierre Bezoukhov et André Volkonsky, et en même temps Nicolas Rostov qui sert d'axe de référence à l'un et à l'autre. On retrouve également la gradation. Plusieurs membres d'une famille présentent les mêmes traits de caractère, mais à des degrés différents. Ainsi, dans Anna Karenine, Stiva se situe sur un palier inférieur par rapport à sa sœur. Mais le parallélisme, l'antithèse, la gradation, la répétition sont autant de figures rhétoriques. On peut alors formuler ainsi la thèse sous-jacente aux remarques de Shklovsky. Il existe des figures du récit qui sont des projections des figures rhétoriques. À partir de cette supposition, nous pourrions vérifier quelles sont les formes prises par d'autres figures de rhétorique moins connues au niveau du récit. Prenons par exemple l'association, figure qui se rapporte à l'emploi d'une personne inadéquate du verbe. En voici un exemple linguistique, cette phrase qu'un professeur pourrait adresser à ses élèves. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons pour aujourd'hui? On se souvient sans doute de la démonstration sur les emplois de cette figure en littérature, dans le discours philosophique, donné par Butor à propos de Descartes, de même que de l'emploi qu'il en a fait lui-même dans son livre « La modification ». Voici une autre figure qu'on aurait prise pour une définition du roman policier, si nous ne l'empruntions à la rhétorique de Fontanier écrite au début du XIXe siècle. C'est la sustentation. Elle consiste à tenir longtemps le lecteur ou l'auditeur en suspense et à le surprendre ensuite par quelque chose qu'il était loin d'attendre. La figure peut donc se transformer en un genre littéraire. Mikhail Bakhtin, un grand critique littéraire soviétique, a démontré l'utilisation particulière faite par Dostoïevski d'une autre figure, l'occupation, définie ainsi par Fontanier. Elle consiste à prévenir ou à rejeter d'avance une objection que l'on pourrait essuyer. Toute parole des personnages de Dostoïevski englobe implicitement celle de leur interlocuteur, imaginaire ou réel. Le monologue est toujours un dialogue dissimulé, ce qui détermine précisément la profonde ambiguïté des personnages de Dostoïevski. Je rappellerai en dernier quelques figures fondées sur l'une des propriétés essentielles du langage, l'absence de relation biunivoque entre les sons et le sens. Elle donne lieu à deux phénomènes linguistiques bien connus, la synonymie et la polysémie. La synonymie, base de jeu de mots dans l'usage linguistique, prend la forme d'un procédé littéraire qu'on appelle la reconnaissance. Le fait que le même personnage peut avoir deux apparences, c'est-à-dire l'existence de deux formes pour le même contenu, se rapproche du phénomène qui résulte du rapprochement de deux synonymes. La polysémie donne lieu à plusieurs figures rhétoriques, dont je ne retiendrai qu'une seule, la syllepse. Un exemple notoire de syllepse est contenu dans ce vers de Racine. « Je souffre, brûlé de plus de feu que je n'en allumais. » D'où vient la figure de ce que le mot « feu », qui fait partie de chaque proposition, est pris ici et là dans deux sens différents. Les feux de la première proposition sont imaginaires, ils brûlent l'âme du personnage, alors que les feux de la seconde correspondent à des incendies bien réels. Cette figure a connu une très large extension dans le récit. Nous pouvons l'observer à l'exemple d'une nouvelle de Boccace. On nous y raconte qu'un moine était allé chez sa maîtresse, la femme d'un bourgeois de la ville. Subitement, le mari rentre. Que faire ? Le moine et la femme, qui s'étaient enfermés dans la chambre du petit enfant, font semblant de soigner ce dernier, qui est, disent-ils, malade. Le mari réconforté les remercie chaleureusement. Le mouvement du récit suit, on le voit, exactement la même forme que la syllepse. Un même fait, le moine et la femme dans la chambre à coucher, reçoit une interprétation dans la partie du récit qui le précède et une autre dans celle qui le suit. D'après la partie précédente, c'est un rendez-vous d'amoureux. D'après la suivante, on guérit ainsi l'enfant malade. Cette figure est assez fréquente chez Boccace. Pensons aux histoires du rossignol, du tonneau, etc. Jusqu'ici, ma comparaison, suivant en cela la démarche des formalistes d'où j'étais parti, juxtaposait des manifestations du langage avec des manifestations littéraires. En d'autres mots, nous n'observions que des formes. Je voudrais esquisser ici une autre approche possible qui interrogerait les catégories sous-jacentes à ces deux univers, l'univers de la parole et l'univers de la littérature. Il faut pour cela quitter le niveau des formes pour remonter ou descendre à celui des structures. Par là même, nous nous éloignerons de la littérature pour nous rapprocher de ce discours sur la littérature qu'est la critique. Les problèmes de signification ont pu être abordés d'une manière, sinon heureuse, tout au moins prometteuse, à partir du moment où on a cerné de plus près la notion de sens. La linguistique a négligé pendant longtemps ces problèmes. Ainsi, n'est-ce pas chez elle que nous trouverons nos catégories, mais auprès des logiciens. On peut prendre comme point de départ la division tripartite de Frege. Un signe aurait une référence, un sens et une représentation. Seul le sens se laisse saisir à l'aide de méthodes linguistiques rigoureuses, car il est seul à ne dépendre que du langage et à être contrôlé par la force de l'usage, des habitudes linguistiques. Qu'est-ce que le sens ? C'est, nous dit Benveniste, la capacité d'une unité linguistique de s'intégrer dans une unité de niveau supérieur. Le sens d'un mot est délimité par les combinaisons dans lesquelles il peut accomplir sa fonction linguistique. Le sens d'un mot, c'est l'ensemble de ses relations possibles avec d'autres mots. Isoler le sens dans l'ensemble des significations est une démarche qui pourrait fortement aider le travail de description en études littéraires. Dans le discours littéraire, comme dans le discours quotidien, le sens se laisse isoler d'un ensemble d'autres significations auxquelles on pourrait donner le nom d'interprétation. Toutefois, le problème du sens est ici plus complexe. Alors que dans la parole, l'intégration des unités ne dépasse pas le niveau de la phrase, en littérature, les phrases s'intègrent à nouveau dans des énoncés et les énoncés, à leur tour, dans des unités de dimension plus grande jusqu'à l'œuvre entière. Le sens d'un monologue ou d'une description se laisse saisir et vérifier par ses relations avec les autres éléments de l'œuvre. Cela peut être la caractérisation d'un personnage, la préparation d'un retournement dans l'intrigue, un retardement. En revanche, les interprétations de chaque unité sont innombrables, car elles dépendent du système dans lequel celle-ci sera inclue pour être comprise. Suivant le type de discours dans lequel on projette l'élément de l'œuvre, on aura affaire à une critique sociologique, psychanalytique, philosophique, mais ce sera toujours une interprétation de la littérature dans un autre type de discours, alors que la recherche du sens ne nous conduit pas à l'extérieur du discours littéraire lui-même. C'est là peut-être qu'il faudrait faire passer la limite entre ces deux activités apparentées et néanmoins distinctes que sont la poétique et la critique. Passons maintenant à un autre couple de catégories fondamentales. Elles ont été définitivement formulées par Émile Benveniste dans ses recherches sur les temps du verbe. Benveniste a montré l'existence, dans le langage, de deux plans distincts d'énonciation, celui du discours et celui de l'histoire. Ces plans d'énonciation se réfèrent à l'intégration du sujet de l'énonciation dans l'énoncé. Dans le cas de l'histoire, nous dit-il, il s'agit de la présentation des faits survenus à un certain moment du temps, sans aucune intervention du locuteur dans le récit. Le discours, par contraste, est défini comme toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l'intention d'influencer l'autre en quelque manière. Chaque langue possède un certain nombre d'éléments destinés à nous informer uniquement sur l'acte et le sujet de l'énonciation et qui réalisent la conversion du langage en discours. Les autres sont destinés uniquement à la présentation des faits survenus. Il faudra donc faire une première répartition dans la matière littéraire, suivant le plan d'énonciation qui s'y manifeste. Prenons ces phrases de Proust. Il prodigua pour moi une amabilité qui était aussi supérieure à celle de Saint-Loup que celle-ci à l'affabilité d'un petit bourgeois. À côté de celle d'un grand artiste, l'amabilité d'un grand seigneur, si charmante soit-elle, a l'air d'un jeu d'acteur, d'une simulation. Dans ce texte, seule la première proposition, jusque amabilité, relève du plan de l'histoire. La comparaison qui suit, ainsi que la réflexion générale contenue dans la seconde phrase, appartiennent au plan du discours, ce qui est marqué par des indices linguistiques précis, par exemple le changement de temps. Mais la première proposition, elle aussi, est liée au discours, car le sujet de l'énonciation y est indiqué par le pronom personnel. Il y a donc un recoupement de moyens pour indiquer l'appartenance au discours, soit par le statut de la parole, style direct ou indirect, soit par son mode, c'est-à-dire le cas où la parole ne renvoie pas à une réalité extérieure. Le dosage des deux plans d'énonciation détermine le degré d'opacité du langage littéraire. Tout énoncé qui relève du discours a une autonomie supérieure, car il prend toute sa signification à partir de lui-même sans l'intermédiaire d'une référence imaginaire. Le fait qu'Elstir a prodigué son amabilité renvoie à une représentation extérieure, celle des deux personnages et d'un acte. Mais la comparaison et la réflexion qui suit sont des représentations en elles-mêmes. Elles ne renvoient qu'au sujet de l'énonciation et elles affirment par là la présence du langage lui-même. L'interpénétration de ces deux catégories est, on peut s'en rendre compte, grande et pose déjà en elle-même de multiples problèmes qui ne sont pas encore effleurés. La situation se complique davantage si nous nous rendons compte que ce n'est pas là l'unique forme sous laquelle ces catégories prennent corps en littérature. La possibilité de considérer toute parole comme avant tout une relation sur la réalité ou comme énonciation subjective nous conduit à une autre constatation importante. Ce ne sont pas seulement les caractéristiques de deux types de paroles, ce sont aussi les deux aspects complémentaires de toute parole, littéraire ou non. Dans tout énoncé, on peut isoler provisoirement ces deux aspects. Il s'agit d'une part d'un acte de la part du locuteur, d'un agencement linguistique, de l'autre de l'évocation d'une certaine réalité. Et celle-ci n'a, dans le cas de la littérature, aucune autre existence que celle conférée par l'énoncé lui-même. Les formalistes russes avaient là encore relevé l'opposition, sans toutefois pouvoir montrer ses bases linguistiques. Dans tous les récits, ils distinguaient la fable, c'est-à-dire la suite des événements représentés, tels qu'ils se seraient déroulés dans la vie, du sujet, qui n'a rien à voir avec le sujet, je crois, dont on a parlé jusque maintenant, plot en anglais, l'agencement en particulier donné à ces événements par l'auteur. Les inversions temporelles étaient leur exemple préféré. Il est évident que la relation d'un événement postérieur à un autre, avant celui-ci, trahit l'intervention de l'auteur, ou plutôt du sujet de l'énonciation. On se rend maintenant compte que cette opposition ne correspond pas à une dichotomie entre le livre et la vie représentée, mais à deux aspects toujours présents d'un énoncé, à sa nature double d'énoncé et d'énonciation. Ces deux aspects donnent vie à deux réalités, aussi linguistiques l'une que l'autre, celle des personnages et celle du couple narrateur-lecteur. La distinction entre discours et histoire permet de mieux asseoir un autre problème de la théorie littéraire, celui des visions ou des points de vue. En fait, il s'agit là des transformations que la notion de personne subit dans le récit littéraire. Ce problème, soulevé naguère par Henry James, a été traité plusieurs fois depuis, et en France, notamment par Jean Pouillon, Claude-Edmond Magny, Roger Blin. Ces études, qui ne tenaient pas compte de la nature linguistique du phénomène, n'ont pas réussi à expliciter entièrement sa nature, bien qu'elles aient décrit ses aspects les plus importants. Le récit littéraire, qui est une parole médiatisée et non immédiate, et qui subit en plus les contraintes de la fiction, ne connaît qu'une seule catégorie personnelle, qui est la troisième personne, c'est-à-dire l'impersonnalité. Celui qui dit « je » dans le roman n'est pas le « je » du discours, autrement dit, le sujet de l'énonciation. Ce n'est qu'un personnage, et le statut de ses paroles, le style direct, leur donne une objectivité maximum au lieu de les rapprocher du sujet de l'énonciation véritable. Mais il existe un autre « je », un « je » la plupart du temps invisible, qui se réfère au narrateur, cette personnalité poétique que nous saisissons à travers le discours. Il y a donc une dialectique de la personnalité et de l'impersonnalité entre le jeu du narrateur, implicite, et le « il » du personnage, qui peut être un jeu explicite, entre le discours et l'histoire. Tout le problème des visions est là, dans le degré de transparence des « il » impersonnels de l'histoire par rapport au jeu opaque du discours. Il est facile de voir, dans cette perspective, quelle classification des visions nous pouvons adopter. Elle correspond à peu près à celle que Jean Pouillon avait proposée dans son livre « Temps et romans », c'est-à-dire la suivante. Soit le « je » du narrateur apparaît constamment à travers le « il » du héros, comme dans le cas du récit classique, avec un narrateur omniscient, et c'est le discours qui supplante l'histoire. Soit le « jeu » du narrateur est entièrement effacé derrière le « il » du héros, nous sommes alors dans la fameuse « narration objective », type de récit pratiqué surtout par les auteurs américains, entre les deux guerres. Dans ce cas, le narrateur ignore tout de son personnage Il en voit simplement les mouvements, les gestes, il en entend les paroles, c'est donc l'histoire qui supplante le discours. Soit enfin, le jeu du narrateur est en égalité avec le « il » du héros, tous deux sont renseignés de la même façon sur le développement de l'action, et c'est le type du récit qui, apparu au XVIIIe siècle, domine actuellement la production littéraire. Le narrateur s'attache à l'un des personnages et observe tout à tout à travers ses yeux. On arrive par là, dans ce type de récit précisément, à la fusion de « je » et de « il » dans un « je » racontant, ce qui rend la présence du véritable « je », celui du narrateur, encore plus difficile à saisir. Ce n'est là qu'une première répartition grossière. Tout récit combine plusieurs visions à la fois. Il existe d'autre part de multiples formes intermédiaires. Le personnage peut tricher avec lui-même en racontant, aussi bien qu'il peut confesser tout ce qu'il sait sur l'histoire. Il peut l'analyser jusqu'au moindre détail ou se satisfaire de l'apparence des choses. On peut nous présenter une dissection de sa conscience, le monologue dit intérieur, ou une parole articulée. Toutes ces variétés font partie d'une seule vision, celle qui met en égalité narrateur et personnage. Des analyses fondées sur les catégories linguistiques pourront sans doute mieux saisir ces nuances. J'ai essayé de cerner quelques manifestations parmi les plus évidentes d'une catégorie linguistique dans le récit littéraire. D'autres catégories attendent leur tour. Il faudra un jour découvrir ce que sont devenus le temps, la personne, l'aspect, la voix en littérature, car elles y seront bien présentes si celle-ci n'est, comme le croyait Valéry, qu'une extension et application de certaines propriétés du langage.
As we announced it earlier, the second paper will directly follow the first one, and Roland Barthes, that I do not need to introduce to you, his name has already been mentioned several times in the discussion, will talk on écrit verbe intransitif, with a question mark.
Je voudrais d'abord présenter quelques excuses, d'une part aux organisateurs de notre colloque, qui ont bien voulu traduire nos communications en anglais, et d'autre part à vous, qui avez ma communication en anglais entre les mains, parce qu'en réalité, depuis le moment où je l'ai envoyée pour qu'on la traduise, j'y ai apporté certaines modifications. Je m'en excuse, le texte que vous avez entre les mains n'est pas tout à fait celui que je vais dire, le cadre est le même, mais le propos n'est pas toujours le même, et peut-être les corrections d'ailleurs seraient-elles profondément significatives. Une seconde excuse, je dois l'improviser car elle provient du fait que je ne savais pas du tout ce que notre ami Todorov allait vous dire et qu'il se trouve qu'en bien des points, je vais le répéter. Je m'excuse donc auprès de lui et auprès de vous. Eh bien, il me semble que pendant des siècles, la littérature occidentale a conçu la littérature non point comme on le fait encore aujourd'hui à travers une pratique des œuvres, des auteurs, des écoles, mais à travers une véritable théorie du langage. Cette théorie avait un nom qui lui venait de l'Antiquité, c'était la rhétorique. La rhétorique qui a régné en Occident, façon qu'on peut dater très exactement, de Gorgias, disons, à la Renaissance, c'est-à-dire pendant près de deux millénaires. Menacée dès le XVIe siècle par l'avènement du rationalisme moderne, la rhétorique a été tout à fait ruinée lorsque ce rationalisme s'est transformé, disons, en positivisme, à la fin du XIXe siècle. Et à ce moment-là, me semble-t-il, entre la littérature d'une part et le langage d'autre part, il n'y a pour ainsi dire plus aucune zone commune de réflexion. La littérature ne se sent plus langage, sauf chez quelques écrivains précurseurs, tels en France Mallarmé. Et d'autre part, la linguistique ne se reconnaît sur la littérature que des droits très limités, enfermés dans une discipline philologique secondaire, dont le statut est d'ailleurs incertain, et qu'on appelle encore maintenant la stylistique. On le sait, tout au moins je le crois, cette situation est en train de changer. Et c'est d'ailleurs, me semble-t-il, un peu pour prendre acte de ce changement que nous sommes en partie réunis ici, en ce moment, grâce à l'hospitalité de votre université. La littérature et le langage sont en train, me semble-t-il, de se retrouver. Les facteurs de ce rapprochement sont évidemment divers et complexes. Je citerai les plus manifestes. D'une part, l'action de certains écrivains qui, depuis Mallarmé, ont entrepris une exploration radicale de l'écriture et ont fait de leur œuvre la recherche même du livre total, tels Proust et Joyce. Et d'autre part, le développement de la linguistique elle-même, qui, principalement, comme vient de le dire Tsvetan Todorov, principalement sous l'impulsion de Roman Jakobson, inclut désormais dans son champ le poétique, c'est-à-dire un ordre des effets liés au message et non pas à son référent. Il existe donc, à mes yeux, aujourd'hui, une perspective nouvelle de réflexion, commune, j'y insiste, à la littérature et à la linguistique, aux créateurs et aux critiques, dont les tâches, jusqu'ici absolument étanches, commencent à communiquer, peut-être même à se confondre, tout au moins au niveau de l'écrivain, de certains écrivains, dont l'action peut être définie de plus en plus comme une critique du langage. Et c'est dans cette perspective que je voudrais me placer, en indiquant par quelques observations brèves, mais peut-être malgré tout trop longues pour vous, observations qui seront bien entendu prospectives et non pas conclusives, comment l'activité d'écriture peut être aujourd'hui énoncée à l'aide de certaines catégories linguistiques. Cette conjonction nouvelle de la littérature et de la linguistique dont je viens de parler, on pourrait l'appeler provisoirement, s'il faut absolument donner un nom aux choses, ce qui est naturellement très dangereux, mais d'un danger peut-être utile. S'il fallait donner un nom à cette conjonction nouvelle, je pourrais l'appeler, évidemment, faute de mieux, sémiocritique, puisqu'elle implique que l'écriture est un système de signes. Or, la sémiocritique, bien entendu, ne peut pas se confondre avec la stylistique, même renouvelée, ou tout au moins la stylistique est loin de l'épuiser. Il s'agit en réalité d'une perspective d'une toute autre ampleur, dont l'objet ne peut être constitué par de simples accidents de forme, mais par les rapports mêmes du scripteur. Par les rapports même du scripteur et de la langue. Ceci implique que si l'on se place dans une telle perspective, on ne se désintéresse pas de ce qu'est le langage, mais qu'au contraire, on revienne sans cesse aux vérités, fussent-elles provisoires, de l'anthropologie linguistique. Certaines de ces vérités ont encore, me semble-t-il, une force de provocation face à une certaine idée courante de la littérature et du langage, et c'est pour cette raison que je me permets maintenant de les rappeler. Premièrement, l'un des enseignements qui nous est donné par la linguistique actuelle, c'est qu'il n'y a pas de langue archaïque, ou que tout au moins, il n'y a pas de rapport entre la simplicité et l'ancienneté d'une langue. Les langues anciennes peuvent être tout aussi complètes et tout aussi complexes que les langues récentes. Autrement dit, d'une façon peut-être un peu plus brutale, il n'y a pas d'histoire progressiste du langage. Donc, lorsque nous essayons de retrouver dans l'écriture moderne certaines catégories fondamentales du langage, eh bien, il va de soi que nous ne prétendons pas du tout mettre à jour un certain archaïsme de la psyché. Nous ne disons pas que l'écrivain fait retour ou doit faire retour à l'origine du langage, mais tout au moins que le langage est pour lui origine. Un second principe particulièrement important en ce qui concerne la littérature, c'est que le langage ne peut être considéré comme un simple instrument utilitaire ou décoratif de la pensée. L'homme ne préexiste pas au langage, ni phylogénétiquement, ni ontogénétiquement. Nous n'atteignons jamais un état où l'homme serait séparé du langage, qu'il élaborerait alors, n'est-ce pas, pour exprimer ce qui se passe en lui. C'est le langage qui enseigne la définition de l'homme, non le contraire. Troisièmement, de plus, d'un point de vue méthodologique, la linguistique nous accoutume, me semble-t-il, à un nouveau type d'objectivité. L'objectivité que l'on a requise jusqu'à présent dans les sciences humaines était une objectivité, est encore, bien souvent, une objectivité du donné, qu'il s'agit, en somme, d'accepter intégralement. La linguistique, elle, d'une part, nous suggère de distinguer des niveaux d'analyse et de décrire les éléments distinctifs de chacun de ces niveaux. Bref, de fonder la distinction du fait et non le fait lui-même. Et d'autre part, elle nous invite à reconnaître que, contrairement aux faits physiques et biologiques, les faits de culture sont toujours doubles, qu'ils renvoient à quelque chose d'autre. C'est, comme l'a remarqué Benveniste, la découverte de la duplicité, au sens propre, du langage, qui fait tout le prix de la réflexion de Saussure. Ces quelques préalables se trouvent contenus dans une dernière proposition qui justifie, à mes yeux, toute recherche sémiocritique. La culture nous apparaît de plus en plus comme un système général de symboles régi par les mêmes opérations. Il y a une unité symbolique, une unité du champ symbolique, et la culture, sous tous ses aspects, est une langue. Il est donc possible aujourd'hui de prévoir, peut-être, la constitution d'une science unique de la culture, qui s'appuiera certes sur des disciplines diverses, mais toutes attachées à analyser, à différents niveaux de description, la culture comme une langue. La sémiocritique ne sera évidemment qu'une partie de cette science de la culture, et qui d'ailleurs, en tout état de cause, restera toujours un discours sur la culture. Pour nous, cette unité du champ symbolique humain nous autorise à travailler sur un postulat qui a déjà été énoncé par Todorov ce soir, et que j'appellerai, si vous voulez, postulat d'homologie, à savoir que la structure de la phrase, objet de la linguistique, se retrouve homologiquement dans la structure des œuvres. Le discours n'est pas seulement, bien entendu, une addition de phrases, il est lui-même, si l'on peut dire, une grande phrase. Et c'est selon cette hypothèse de travail que je voudrais confronter donc certaines catégories de la langue avec la situation actuelle de l'écrivain qui cherche, disons, par rapport à son écriture. Je ne cache pas que cette confrontation n'a pas du tout une force démonstrative et que sa valeur reste pour le moment essentiellement métaphorique. Mais peut-être aussi, dans l'ordre des objets qui nous occupent, la métaphore a-t-elle, plus que nous le pensons, une existence méthodologique. Première catégorie, dont Todorov a dit un mot, la temporalité. Nous le savons, je pense que nous pouvons être d'accord là-dessus, il y a un temps spécifique de la langue. Il y a une temporalité linguistique, et ce temps de la langue est également différent du temps physique et de ce que Benveniste appelle le temps chronique, c'est-à-dire le temps des calendriers et des computes. Ce temps linguistique reçoit un découpage et des expressions très variées selon les langues. Pensons par exemple à nous qui pouvons nous intéresser à l'analyse du récit ou à l'analyse des mythes. Pensons par exemple que bien des idiomes, bien des langues, et notamment on le cite beaucoup à propos du Chinook, cette langue amérindienne de la région du fleuve Columbia, par exemple, bien des idiomes comportent une forme verbale pour indiquer le temps, le passé mythique. N'est-ce pas ? Il y a un passé particulier pour indiquer le passé du mythe. Donc, ce temps linguistique reçoit un découpage et des formes variées selon les langues, mais une chose semble sûre, le temps linguistique a toujours pour centre générateur le présent de l'énonciation. Alors, ceci nous invite à nous demander si, précisément, homologique à ce temps linguistique, il n'y a pas aussi un temps spécifique du discours. Et sur ce point, Todorov le rappelait, Benveniste nous propose un premier éclaircissement. Dans bien des langues, notamment indo-européennes, le système temporel est double. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, n'est-ce pas, dans une même langue, un premier système temporel ou système du discours proprement dit qui est adapté à la temporalité de l'énonciateur, dont l'énonciation reste explicitement le moment générateur. Et puis, il y a parallèlement un second système ou système de l'histoire, du récit, qui est approprié à la relation des événements passés sans intervention du locuteur et qui, par conséquent, est dépourvu, n'est-ce pas, ce second système ou système de l'histoire est dépourvu de présent et de futur. S'il a un futur, ce n'est jamais qu'un futur périphrastique. Et dans ce second système, le temps spécifique est évidemment l'aoriste, n'est-ce pas, l'aoriste ou ses équivalents, tels notre passé simple ou le prétérite. Cet aoriste qui est précisément le seul temps à faire défaut au système du discours. Naturellement, l'existence de ce système apersonnel ne contredit pas la nature essentiellement logocentrique du temps linguistique que je viens d'affirmer. Le second système est seulement privé des caractères du premier. L'un est lié à l'autre, par conséquent, par l'opposition même du marqué-non marqué, et les deux systèmes participent à la même pertinence. Ce que je voudrais ajouter à cette analyse linguistique qui vient de Benveniste, dans sa clarification, disons, c'est que la distinction des deux systèmes temporels, n'est-ce pas, système du discours et système de l'histoire, la distinction de ces deux systèmes ne recouvre nullement celle que l'on fait traditionnellement entre discours objectif et discours subjectif, car on ne saurait confondre le rapport de l'énonciateur et du référent, d'une part, avec, d'autre part, le rapport de ce même énonciateur avec l'énonciation. Et c'est seulement ce dernier rapport qui détermine le système temporel du discours. Je crois que ces faits de langage ont été peu perceptibles tant que la littérature s'est donnée pour l'expression docile et comme transparente soit du temps dit objectif, n'est-ce pas, ou temps chronique des calendriers, soit de la subjectivité psychologique, c'est-à-dire tant que la littérature s'est placée, disons, sous une idéologie totalitaire du référent, ou pour parler plus vulgairement, tant que la littérature a été réaliste. Aujourd'hui, cependant, me semble-t-il, cette littérature dont je parle découvre dans le déploiement du discours ce que j'appellerais relativement au temps, à la temporalité, des subtilités fondamentales. Par exemple, nous sentons, à la lecture de certains écrivains plongés dans ce genre de recherche, nous sentons que ce qui est raconté, ce qui peut être raconté d'une façon aoristique, n'apparaît nullement immergé dans le passé, dans ce qui a eu lieu mais seulement dans la non-personne. Cette non-personne qui n'est ni l'histoire, ni la science, ni encore moins le on des écritures dites anonymes, car ce qu'il emporte dans le on, eh bien, c'est l'indéfini et ce n'est pas l'absence de personne. Je dirais, si vous voulez, qu'à mon sens, le pronom on est marqué par rapport à la personne, tandis que il, paradoxalement, ne l'est pas. On est plus personne, si je puis dire, que il qui ne l'est pas du tout. À l'autre terme de l'expérience du discours, eh bien, l'écrivain actuel ne peut plus se contenter d'exprimer son propre présent, par exemple selon un projet lyrique. Bah, il lui faut apprendre à distinguer le présent du locuteur, qui reste établi sur une plénitude psychologique, d'une part, du présent de la locution, qui est mobile comme elle et en qui s'instaure une coïncidence absolue de l'événement et de l'écriture. Ainsi, dans la littérature, du moins dans certaines de ses recherches, me paraît-elle suivre le même chemin que la linguistique, lorsqu'avec un linguiste qui n'est pas actuellement à la mode, mais qui le redeviendra peut-être un jour, et qui s'appelle Gustave Guillaume, elle s'est interrogée sur le temps opératif ou temps propre de l'énonciation elle-même. Deuxième catégorie, je voudrais interroger la personne. Alors là, je m'excuse, je suis obligé de reprendre certaines choses qui ont été énoncées, non seulement par Todorov, mais aussi, quoique bien rapidement, et nous le regrettons, par Donato cet après-midi. Je voudrais alors, là, une fois de plus, m'appuyant sur les linguistes et sur Benveniste notamment, rappeler que la personne, je précise bien, au sens grammatical du terme, n'est-ce pas ? Pas au sens psychologique ou philosophique. La personne, au sens grammatical du terme, semble bien être un universal du langage, un fait universel lié à l'anthropologie même du langage. Tout langage, comme l'a montré Benveniste et comme on l'a rappelé, organise la personne en deux grandes oppositions. D'abord, une corrélation de personnalité proprement dite, qui oppose la personne, c'est à savoir je ou tu, n'est-ce pas, dans un même bloc, à la non-personne, qui est il. C'est ce il ou cette non-personne qui est signe de celui qui est absent, signe de l'absence. Et intérieur à cette première grande opposition, une corrélation de subjectivité, au sens strictement grammatical du terme, opposition, corrélation, qui oppose deux personnes, d'une part le je et d'autre part la personne non-je, la personne non-je qui est le tu. Eh bien, pour notre usage, il nous faut, avec Benveniste toujours, faire, me semble-t-il, trois observations. D'abord ceci, la polarité des personnes, condition fondamentale du langage, est cependant une polarité très particulière et qui reste malgré tout énigmatique, car cette polarité ne comporte ni égalité ni symétrie. Je, ou si vous voulez, ego a toujours une position de transcendance à l'égard de tu, car je est intérieur à l'énoncé et tu lui reste extérieur. Et pourtant, je et tu sont inversibles, je pouvant toujours devenir tu et réciproquement. Et ceci n'est pas le cas pour la non-personne, c'est-à-dire pour il, qui ne peut jamais s'inverser en personne ni réciproquement. Ensuite, ce sera ma seconde observation, le je linguistique, cela Donato l'a rappelé en citant Benveniste, le je linguistique peut et doit se définir d'une façon strictement apsychologique, non psychologique. Je n'ai rien d'autre que la personne qui énonce la présente instance de discours contenant l'instance linguistique je. Enfin, dernière remarque, le il ou la non-personne ne réfléchit jamais l'instance du discours hors de laquelle il se situe, et il faut donner tout son poids, me semble-t-il, à la recommandation de Benveniste, qui dit de ne pas se représenter le « il » comme une personne plus ou moins diminuée, plus ou moins éloignée. « Il » est absolument et d'un seul coup la non-personne, marquée par l'absence de ce qui fait spécifiquement, c'est-à-dire linguistiquement, « je » et « tu ». Eh bien, de cet éclaircissement linguistique, du moins j'espère est un éclaircissement, nous tirerons quelques suggestions pour une analyse du discours littéraire. Tout d'abord, je pense que quelles que soient les marques variées et souvent extrêmement rusées que prenne la personne lorsqu'on passe de la phrase au discours, tout comme pour la temporalité, le discours de l'œuvre est soumis à un double système, et rigoureusement soumis, si je puis dire, à un double système, un système de la personne et un système de la non-personne. Ce qui fait illusion, c'est que le discours classique, au sens très large du terme, dont nous avons l'habitude, est un discours mixte, qui fait alterner, souvent à une cadence extrêmement rapide, et parfois même à l'intérieur d'une même phrase, qui fait alterner l'énonciation personnelle et l'énonciation apersonnelle, à travers un jeu complexe de pronoms et de verbes descriptifs. Ce régime mixte de personnes et de non-personnes produit, dans ce type de récit, disons, classique, et je voudrais presque dire bourgeois, car il s'agit en fait de la littérature dite bourgeoise, eh bien, ce régime mixte de personnes et de non-personnes produit une sorte de conscience ambiguë qui réussit à garder la propriété personnelle de ce qu'elle énonce, en rompant cependant sans cesse la participation de l'énonciateur à l'énoncé. Ensuite, si nous revenons à la définition linguistique de la première personne, c'est pas à savoir que « je » est au fond uniquement en termes linguistiques, on ne peut définir « je » que comme celui qui dit « je » dans la présente instance du discours, eh bien nous comprenons peut-être mieux l'effort de certains écrivains actuels. Je pense notamment en France au dernier roman de Philippe Solers qui s'appelle « Drame », effort de ces écrivains lorsqu'ils essayent de distinguer au niveau même du récit la personne psychologique et, si je puis dire, l'auteur de l'écriture. Contrairement à l'illusion courante des autobiographies et des romans traditionnels, le sujet de l'énonciation ne peut jamais être le même que celui qui a agi hier. C'est-à-dire que lorsque un narrateur raconte ce qui lui est arrivé, eh bien, le je qui raconte n'est plus le même je que celui qui est raconté. Autrement dit, le jeu du discours ne peut plus être le lieu, c'est cela qu'on voit, me semble-t-il, de plus en plus fortement maintenant, le jeu du discours ne peut plus être le lieu où se restituerait d'une façon innocente une personne qu'on aurait préalablement au discours emmagasinée. Le recours absolu à l'instance du discours pour déterminer la personne, ce recours absolu que l'on pourrait appeler avec Damourette et Pichon, qui étaient deux grands grammairiens, qui, vous le savez, ont inventé une terminologie nouvelle extrêmement complexe et qui, parfois, prête à rire ce que j'appellerais les ablutionnistes du langage. Eh bien, Damourette et Pichon appelaient ce recours absolu à l'instance du discours, ils l'appelaient le ninégocentrisme, c'est-à-dire... Nin, n'est-ce pas, du grec nun, maintenant, le ninégocentrisme, dont le slogan pourrait être prélevé dans la première phrase du roman de Robe Grillet qui s'appelle « Dans le labyrinthe », car ce roman commence d'une façon exemplaire par une déclaration admirable de ninégocentrisme. Ça commence ainsi « Je suis seul ici maintenant ». Eh bien, ce recours, si imparfait que puisse en être encore l'exercice, apparaît donc bien comme une arme contre la mauvaise foi générale d'un discours qui ne fait ou qui ne ferait de la forme littéraire que l'expression d'une intériorité constituée en arrière et en dehors du langage. Enfin, pour en terminer avec la personne, je voudrais rappeler cette précision de l'analyse linguistique, à laquelle d'ailleurs Donato a fait allusion. Dans le procès de communication, le trajet du je n'est pas homogène. Lorsque, par exemple, je libère le signe je, ce que je fais actuellement d'ailleurs, lorsque je libère le signe je me réfère à moi-même en tant que je parle, et il s'agit alors d'un acte toujours nouveau, même s'il est répété, un acte dont le sens est toujours inédit. Mais en arrivant à destination, ce « je » est reçu par mon interlocuteur comme un signe stable, issu d'un code plein, dont les contenus sont récurrents. En d'autres termes, je dirais que le « je » de celui qui écrit « je » n'est pas le même que le « je » qui est lu par « tu ». Et cette dissymétrie fondamentale du langage, qui a été, j'insiste là-dessus, n'est-ce pas, dissymétrie fondamentale, qui a été éclaircie linguistiquement par Jespersen et ensuite Jacobson sous la notion et sous le nom d'embrayeur, de shifter, ou de chevauchement du message et du code, eh bien, cette dissymétrie fondamentale du langage, il me semble qu'elle commence enfin à inquiéter la littérature en lui représentant que l'intersubjectivité, ou expression à laquelle je préférerais de beaucoup substituer l'expression de interlocution plutôt qu'intersubjectivité, en représentant à la littérature que l'interlocution ne peut s'accomplir par le simple effet d'un vœu pieux concernant les mérites du dialogue, de ce qu'on appelle le dialogue, mais par une descente profonde, patiente et souvent détournée dans les labyrinthes du sens. Il me reste à parler d'une dernière notion grammaticale qui peut, à mon sens, éclairer encore l'activité d'écriture dans son centre, puisqu'elle concerne le verbe écrire lui-même. Il serait intéressant de savoir à quel moment on s'est mis à employer le verbe écrire d'une façon apparemment intransitive. L'écrivain n'étant plus celui qui écrit quelque chose, mais celui qui écrit, absolument, n'est-ce pas? Combien de fois maintenant entendons-nous dans des conversations, tout au moins dans des milieux intellectuels, que fait-il dans la... Que fait-il? Il écrit. Que fait-il? Il écrit. Eh bien, ce passage du verbe écrire transitif au verbe écrire apparemment intransitif est évidemment le signe d'un changement important de mentalité. Mais s'agit-il vraiment d'intransitivité? Aucun écrivain, à vrai dire, à quelque temps qu'il appartienne, ne peut ignorer qu'il écrit toujours quelque chose, et on pourrait même dire que c'est paradoxalement au moment où le verbe écrire a paru devenir intransitif que son objet, sous le nom de livre ou de texte, a pris une importance particulière. Ce n'est donc pas, à mon sens, tout au moins en premier lieu, du côté de l'intransitivité qu'il faut chercher la définition de l'écrire moderne. C'est une autre notion linguistique qui nous en donnera peut-être la clé, la notion de diathèse, ou comme on dit dans les grammaires classiques, la notion de voix, pas voix active, voix passive, voix moyenne. Vous savez que la diathèse désigne la façon dont le sujet du verbe est affecté par le procès. Cette affectation est bien évidente dans le cas de la voix passive, car si je dis « je suis battu », il est bien évident que je suis profondément affecté par le procès du verbe « battre ». Et pourtant, ce n'est pas l'actif et le passif que la diathèse oppose véritablement, selon les linguistes. Alors là, les historiens linguistes, ce n'est pas la véritable opposition vraiment importante, n'est pas entre l'actif et le passif, il semble qu'elle soit entre l'actif et le moyen. Selon un exemple classique, qui a été donné par Meillet et repris par Benveniste. Par exemple, le verbe sacrifier, sacrifier rituellement, n'est-ce pas, dans les anciennes civilisations, le verbe sacrifier dans les langues indo-européennes, par exemple, le verbe sacrifier est actif si c'est le prêtre qui sacrifie la victime à ma place et pour moi. Et il est moyen si, prenant en quelque sorte le couteau des mains du prêtre, je fais moi-même le sacrifice pour mon propre compte. Dans le cas de l'actif, vous le voyez, le procès s'accomplit hors du sujet, car s'il est vrai que le prêtre fait le sacrifice, eh bien, le prêtre n'est pas affecté directement par le sacrifice qu'il fait, puisqu'il le fait pour moi, pour mon propre compte. Tandis que dans le cas du moyen, au contraire, en agissant, le sujet s'affecte lui-même et il reste toujours intérieur au procès, même si ce procès comporte un objet, en sorte que, comme l'ont montré les historiens linguistes, le moyen n'exclut pas forcément la transitivité. Eh bien, vous le devinez, ainsi défini, la voie moyenne, à mon sens, correspond tout à fait à l'état de l'écrire moderne. Écrire, c'est aujourd'hui se faire centre du procès de parole, c'est effectuer l'écriture en s'affectant soi-même, c'est faire coïncider l'action et l'affection, c'est laisser le scripteur à l'intérieur de l'écriture, non à titre de sujet psychologique, je le répète, car le prêtre indo-européen pouvait fort bien déborder de subjectivité en sacrifiant pour mon propre compte, pour son client, c'est pas, mais à titre d'agent de l'action. Je crois qu'on peut même pousser plus loin l'analyse diathétique du verbe écrire moderne, n'est-ce pas, dont je viens d'essayer de montrer qu'en réalité, c'était un verbe moyen. Vous savez qu'en français, là je suis obligé de me référer à des exemples strictement français, vous savez qu'en français, certains verbes ont le sens actif à la forme simple, par exemple aller, arriver, rentrer, sortir, mais curieusement, ces verbes actifs prennent l'auxiliaire du passif, c'est-à-dire le verbe être, aux formes du passé composé. On ne dit pas « j'ai allé », on dit « je suis allé », « je suis sorti », « je suis arrivé », « je suis rentré », etc. Eh bien, pour expliquer cette bifurcation proprement moyenne, Guillaume distingue justement, me semble-t-il, entre deux passés composés. Un passé composé qu'il appelle « diriment », c'est-à-dire un passé composé avec l'auxiliaire « avoir ». Et ce passé composé suppose, si vous voulez, une interruption du procès qui est due à l'initiative du locuteur. Autrement dit, voyez-vous, il faut dans ce genre de passé diriment se représenter les choses ainsi, avec le verbe « marcher », par exemple, qui est un verbe actif tout à fait banal. Je marche, je m'arrête de marcher, par ma propre initiative, j'ai marché. Pas passé diriment. Et d'autre part, alors, un passé composé qu'il appelle intégrant, qui est un passé avec le verbe être, qui est propre au verbe, qui désigne une sorte d'entier sémantique. Un entier sémantique qu'on ne peut pas débiter à la simple initiative du sujet. N'est-ce pas ? Je suis sorti, ou il est mort, vous permettrez de ne pas dire je suis mort. Je suis sorti et il est mort, ne renvoie jamais à une interruption en quelque sorte dirimante de la sortie ou de la mort, n'est-ce pas ? Voilà une opposition que je crois importante parce que nous voyons très bien que écrire a été traditionnellement un verbe actif dont le passé est encore aujourd'hui formellement un passé dirimant. J'écris un livre, je le termine, je l'ai écrit. Mais dans notre littérature, me semble-t-il, le verbe change de statut, sinon de forme, et écrire devient un verbe moyen dont le passé est intégrant, dans la mesure même où l'écrire moderne devient une sorte d'entier sémantique indivisible, en sorte que si la langue suivait la littérature, qui est peut-être une, pour une fois en avance sur elle, eh bien je dirais qu'on ne devrait pas dire aujourd'hui « j'ai écrit », on devrait dire « je suis écrit ». Je suis écrit, comme on dit, je suis né, il est mort, elle est éclose. Expressions dans lesquelles il n'y a bien entendu, n'est-ce pas, j'insiste là-dessus, en dépit des apparences, en dépit du verbe être, il n'y a dans ces expressions aucune idée de passif. Il n'y a aucun passif dans l'expression « je suis sorti », puisque, démonstration formelle, je ne pourrai jamais transformer, sans forcer les choses, « je suis écrit », à supposer que j'ose employer cette expression, je ne pourrais pas transformer « je suis écrit » en « on m'a écrit ». Eh bien, vous voyez, à mon sens, dans l'écrire moyen, tel que je viens de l'analyser, ou d'essayer de l'analyser, la distance du scripteur et du langage diminue asymptotiquement. On pourrait même dire que ce sont les écritures de la subjectivité, telles, disons, l'écriture romantique, romantique au sens français du terme. Ce sont ces écritures de la subjectivité romantique qui, paradoxalement, sont des écritures actives, car en elles, l'agent n'est pas intérieur, mais antérieur au procès d'écriture. Dans ces écritures-là, celui qui écrit n'y écrit pas pour lui-même, mais au terme d'une sorte de procuration indue, pour une personne extérieure et antécédente, même s'ils portent tous les deux le même nom, tandis que dans l'écrire moyen de la modernité, le sujet se constitue comme immédiatement contemporain de l'écriture, s'effectuant et s'affectant par elle. C'est, à mon sens, le cas exemplaire du narrateur proustien, qui n'existe qu'en écrivant, en dépit de la référence à un pseudo-souvenir. Je voudrais conclure maintenant. Vous l'avez compris, ces quelques remarques tendent à suggérer qu'à mon sens, le problème central de l'écriture moderne coïncide exactement avec ce que l'on pourrait appeler la problématique du verbe en linguistique. De même que la temporalité, la personne et la diathèse délimitent ce qu'on appelle le champ positionnel du sujet, de même la littérature moderne cherche à instituer à travers des expériences diverses, une position nouvelle de l'agent de l'écriture dans l'écriture elle-même. Et le sens, ou si l'on préfère le but de cette recherche, est de toute évidence de substituer révolutionnairement à l'instance de la réalité ou instance du référent qui a été l'alibi mythique qui a dominé et domine encore largement notre idée de la littérature, de lui substituer l'instance même du discours. Le champ de l'écrivain n'est que l'écriture elle-même, non pas comme une forme pure, telle que a pu la concevoir une esthétique de l'art pour l'art, mais d'une façon beaucoup plus radicale, comme le seul espace possible de celui qui écrit. Il faut en effet, me semble-t-il, le rappeler à ceux qui seraient tentés ou ont été tentés d'accuser ce genre de recherche ou de propos dont je vous entretiens, de les accuser, disons, de solipsisme, de formalisme. On a prononcé le mot ici comme si, véritablement, il allait de soi. Solipsisme, formalisme, ou, à l'inverse d'ailleurs et contradictoirement, de scientisme. Eh bien, à tous ceux qui seraient tentés de porter ces accusations contre ce genre de recherche, je voudrais rappeler que, en revenant aux catégories fondamentales de la langue, telles que précisément la personne, le temps et la voix, en fait, nous nous plaçons au cœur même d'une problématique de l'interlocution. Car ces catégories sont précisément celles où se nouent les rapports du « je » et de ce qui est privé de la marque du « je ». Dans la mesure même où la personne, le temps et la voix, j'ai oublié de dire combien elle était bien nommée, cette voix, ce qu'on appelle la voix en grammaire, combien les anciens ont eu raison de l'appeler une voix, eh bien, dans la mesure même où la personne, le temps et la voix impliquent ces êtres linguistiques remarquables que sont les shifters, elle nous oblige par là même à penser la langue et le discours non plus dans les termes d'une nomenclature instrumentale et par conséquent réifiée, mais dans l'exercice même de la parole. Le pronom, par exemple, dont nous avons été plusieurs à vous parler ce soir, aujourd'hui, sans nous concerter, certes, eh bien, le pronom, qui est sans doute le plus vertigineux des shifters, de ces chevauchements entre le code et le message, le pronom appartient structuralement, n'est-ce pas ? Et c'est là qu'est, en quelque sorte, le paradoxe à approfondir. Il appartient structurellement à la parole. C'est là, si vous voulez, son scandale. Et c'est sur ce scandale que nous devons travailler aujourd'hui, me semble-t-il, linguistiquement et littérairement. Nous cherchons, au fond, tant bien que mal, les uns et les autres, avec des méthodes, souvent des styles, peut-être même des préjugés différents. Mais nous cherchons tout de même, je crois tous, à approfondir le pacte de parole. Le pacte de parole au sens linguistique que cette expression peut avoir, ce pacte de parole qui unit l'écrivain et l'autre en sorte que chaque moment du discours soit à la fois contradiction sur laquelle on ne cessera jamais de réfléchir assez, que chaque moment du discours soit à la fois absolument neuf et absolument compris. Je crois même que, avec peut-être une certaine témérité, nous pourrions donner à cette recherche une dimension historique. Vous savez que au Moyen Âge, il y a eu une classification grandiose de la culture en 7 arts libéraux qu'on appelait réunis sous le nom général de septennium. Et vous savez que ce septennium imposait à l'homme apprenti du Moyen-Âge deux grands lieux d'exploration. D'une part, les secrets de la nature, qui étaient visés par le premier groupe des 7 arts, le quadrivium, et d'autre part, en face de ces secrets de la nature, un autre monde à explorer, les secrets de la parole. Ces secrets de la parole qui relevaient du trivium, grammatica, rhetorica, dialectica. Vous savez aussi que cette opposition s'est perdue de la fin du Moyen Âge à nos jours, puisque le langage, pendant ces 3 siècles, oserais-je dire pendant ce purgatoire de 3 siècles, le langage n'a plus été considéré que comme un instrument au service de la raison, du bon sens, du cœur. Et il me semble qu'aujourd'hui, peut-être, quelque chose commence à revivre de cette antique opposition à l'exploration du cosmos, c'est-à-dire des secrets de la nature, correspond de nouveau l'exploration du langage qui est menée conjointement par la linguistique, la psychanalyse et la littérature. Mais c'est évidemment pour finir sur la littérature que je voudrais insister en disant que pour moi, au fond, enfin, j'emploierai une formule peut-être un peu facile, mais j'y crois. Les écrivains sont un peu, si vous voulez, les cosmonautes du langage. Car la littérature elle-même, à mon sens, est science, non plus du cœur humain, mais de la parole humaine. Son investigation, toutefois, aujourd'hui, ne s'adresse plus, bien entendu, disons, aux formes et aux figures secondes qui faisaient l'objet de la rhétorique, mais elle commence à s'appliquer aux catégories fondamentales de la langue, comme je l'ai dit. Et de même que dans notre culture occidentale, la grammaire n'a commencé à naître, par un paradoxe qui n'est qu'apparent, la grammaire n'a commencé à naître que bien longtemps après la rhétorique, et bien de même, ce n'est peut-être qu'après avoir cheminé pendant des siècles à travers, disons, le beau littéraire, que la littérature peut se poser aujourd'hui les problèmes fondamentaux du langage sans lequel, évidemment, elle ne serait pas.